Chapitre 1, Loi de l'optique géométrique. Introduction. Dans ce premier cours d'optique, après un retour historique sur le concept de la lumière, on rappellera des généralités concernant celle-ci, avant de s'intéresser à proprement parler aux lois de l'optique géométrique, comme la propagation rectiligne, le principe de Fermat ou les lois de la réfraction. Rappelons que les connaissances en optique ont permis de corriger la vue, de permettre la photographie, que ce soit argentique ou numérique, de construire les instruments d'optique permettant de sonder l'univers, mais aussi de faire fonctionner un lecteur CD ou DVD, d'amener Internet par la fibre optique dans les foyers, etc. Histoire de l'optique géométrique. Les anciens, la lumière, la vision. Parmi les anciens scientifiques, trois théories s'affrontaient. Les atomistes pensaient que la vision d'un objet était due à l'arrivée dans notre œil d'une réplique de celui-ci. Ainsi, chaque objet émet en permanence des simulacres de lui-même, qui tombent ou non dans l'œil de l'observateur pour communiquer sa forme. Dans ces idées, il n'existe donc pas de lumière. De leur côté, les pythagoriciens pensaient que l'œil émettait en ligne droite des rayons venus du feu intérieur de chaque individu, et permettait de voir les objets. Ainsi, les chats avaient un feu intérieur plus intense que les hommes, puisqu'ils pouvaient voir la nuit. Euclide, en -300 avant Jésus-Christ, fait partie de ces scientifiques. Il a aussi décrit dans un ouvrage l'obtention d'ombre, la réflexion sur des miroirs, et la réfraction. Son optique est géométrique. Enfin, Aristote s'oppose à l'idée que l'œil émet de la lumière, pour la plus simple des raisons. Si l'œil émettait de la lumière, nous pourrions voir la nuit aussi bien que le jour. Il pense plutôt que la sensation de vision est causée par une propagation de l'objet vers l'œil. Malheureusement pour lui, dans ce domaine, il ne sera pas écouté. Le fondateur de l'optique. Alhazen est le plus grand physicien arabe du Moyen-Âge et peut être considéré comme le fondateur de l'optique. Selon lui, la lumière est une existence indépendante de l'objet vu ou de l'œil. Elle est émise par une source principale, autolumineuse, qui émet de la lumière qui se propage en ligne droite. Il évoque même la diffusion de la lumière. Un grain de poussière peut devenir source accidentelle de lumière. Il explique la réflexion de la lumière, par analogie mécanique, la réfraction par changement de vitesse de la lumière à l'interface entre deux milieux. L'optique en Occident au Moyen-Âge. On commence dès le XIIIe siècle à utiliser des verres convexes pour corriger la vue. Au cours de ce même siècle, un dénommé De Friberg sera le premier scientifique à donner une explication de l'arc-en-ciel, en parlant de réflexion et de réfraction dans la goutte d'eau. Il pense que la lumière est faite d'éclat et d'obscurité, et qu'un mélange savant de ces deux substances permet d'obtenir toutes les couleurs. La contribution des illustres. Kepler, au XVIIe siècle, introduit la notion d'image virtuelle, explique la formation de l'image sur la rétine, et comment on corrige la vue avec des lentilles. Stanley et Descartes sont les pères des lois de la réfraction. Le premier établit les lois expérimentalement, alors que le deuxième les explore théoriquement, avec notamment des histoires de vitesse, erronées. Descartes disait « la lumière court plus vite dans les milieux les plus denses ». Pierre de Fermat rejette l'explication de Descartes pour la réfraction, car il lui semble absurde que la lumière se propage plus rapidement dans un milieu plus dense. Il suppose le contraire et réussit à démontrer la loi de Snell en invoquant le principe du moindre temps. La lumière se propage entre deux points de manière à minimiser le temps de parcours entre ces deux points. Mais ces considérations gênent les cartésiens. Comment la lumière peut-elle connaître son point d'arrivée à l'avance pour ainsi calculer le chemin qui minimise le temps requis ? Fermat a raison, son principe peut être démontré à l'aide de la théorie ondulatoire. Newton expliquera ensuite la dispersion de la lumière à l'aide de sa fameuse expérience à deux prismes. Il prouvera ainsi que la lumière blanche est un mélange de plusieurs couleurs. Cette dispersion avait été observée au préalable par De Friberg, qui pensait déjà que les couleurs étaient une propriété inhérente à la lumière, contrairement à Descartes, qui pensait que c'était la surface du milieu réfringent qui donnait sa couleur à la lumière. Quelques généralités sur la lumière. La nature de la lumière. Le problème historique. Dans notre retour historique sur la lumière, nous nous sommes arrêtés à Newton. Ce grand scientifique n'a pas seulement expliqué la dispersion de la lumière, mais avait un avis sur sa nature. Il prône un modèle corpusculaire de la lumière. Par analogie mécanique, la lumière rebondit sur des objets opaques. A contrario, un dénommé Huygens, à la même époque, décrit la lumière comme une onde, qui se propage comme les ondes à la surface de l'eau. Un peu plus tard, au début du XIXe siècle, Fresnel renforce l'idée d'une onde de lumière en expliquant les phénomènes de diffraction et d'interférence. Puis Maxwell établit que la lumière est une onde électromagnétique de fréquence particulière. Le modèle corpusculaire de Newton semble définitivement obsolète lorsque Hertz, fin 19e, découvre l'effet photoélectrique, arrachement d'électrons d'un métal recevant un faisceau lumineux. Einstein reprend alors l'idée de Newton en postulant l'existence de grains de lumière appelés photons. Quelle est la vraie nature de la lumière ? Ainsi, la lumière n'est ni une onde, ni un ensemble de particules, mais une onde particule. Pour notre étude, dans ce cours d'optique, on retiendra que la lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire un champ magnétique et un champ électrique variable qui se propagent. Propriété de la lumière, propagation dans un milieu. Fréquence, période et longueur d'onde. Une lumière monochromatique, d'une seule couleur, peut être caractérisée par trois nombres.
sa fréquence, nu, exprimée en Hertz, qui est la fréquence de variation du champ électrique. Sa période, grand T, exprimée en secondes, on a T égale 1 sur nu. Sa longueur d'onde lambda, exprimée en mètres, on a lambda égale C sur nu, où C est la célérité de la lumière dans le vide. La lumière telle qu'on l'entend, c'est-à-dire visible, s'étend sur des longueurs d'onde allant de 380 nanomètres, violet, à 780 nanomètres environ, rouge. Dans le spectre électromagnétique, elle ne représente qu'une toute petite gamme de fréquences. Attention, la grandeur physique qui caractérise une onde lumineuse, une couleur, est la fréquence. En effet, plus loin, nous verrons que la vitesse de propagation de la lumière n'est pas toujours égale à C, et donc la longueur d'onde changera selon cette vitesse de propagation. Mais généralement, on caractérise une longueur par sa longueur d'onde dans le vide. Vitesse de propagation. L'onde électromagnétique, donc la lumière, se propage dans le vide à la vitesse C égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La mesure expérimentale de C la plus connue est celle réalisée par Fizeau fin 19e siècle, à l'aide de deux miroirs et d'une roue dentée. Dans les autres milieux, elle se propage moins vite. Ceci est caractérisé par l'indice de réfraction d'un milieu. Indice de réfraction d'un milieu. Il est obtenu par le rapport entre la célérité de la lumière dans le vide et la vitesse à laquelle elle se propage dans le milieu considéré. On a n égale c sur v, avec v exprimé en mètres par seconde. Ainsi, l'indice le plus petit qui existe est 1, et n est forcément supérieur ou égal à 1. Voici quelques valeurs. Dans le vide, 1, dans l'eau, 1,3, dans le verre, 1,5, et dans le diamant, 2,42. Attention, cet indice de réfraction dépend de la couleur de la lumière. On prend généralement comme référence la couleur jaune du doublé du sodium. Dispersion de la lumière, milieu dispersif. Il n'y a pas que la nature du milieu qui influe sur la vitesse de propagation de la lumière, mais sa fréquence aussi. En effet, l'indice optique d'un milieu dépend de la fréquence de la vibration qui s'y propage. Un tel milieu est appelé milieu dispersif. Ainsi, l'eau est un milieu dispersif, ce qui permet l'observation d'arc-en-ciel. Exemple de milieu transparent dispersif. Le vert est un milieu dispersif pour les ondes lumineuses, puisque le bleu, de grande fréquence, se propage moins vite que le rouge, de petite fréquence. L'indice du vert pour le bleu est plus grand que l'indice du vert pour le rouge. Exemple de milieu non dispersif. L'air n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores, puisque toutes les fréquences se propagent à la même vitesse, environ 340 mètres par seconde. Milieu et longueur d'onde. Si on transpose la définition de la longueur d'onde d'une radiation dans le vide à un milieu dispersif, on voit que cette longueur d'onde dépend du milieu. On a lambda milieu égale V fois T, avec T la période, est égal à C sur N fois T, c'est égal à lambda vide, puisque lambda vide égale CT, sur N, l'indice du milieu. Les longueurs d'onde dans un milieu sont donc comprimées. On retiendra donc que plus la fréquence de la vibration est grande, plus sa longueur d'onde est petite, plus la vitesse de propagation est faible, plus l'indice du milieu est grand. Loi de Cauchy. Pour la propagation de la lumière visible dans le verre, cette loi donne l'évolution de l'indice d'un verre en fonction de la longueur d'onde. On a n fonction de lambda qui est égal à a plus b sur lambda carré. Avec a et b des constantes positives qui dépendent du milieu, lambda la longueur d'onde dans le vide de la radiation. Le modèle du rayon lumineux. Peut-on isoler un rayon? Soit un faisceau lumineux issu d'une lampe torche, par exemple. Peut-on isoler un rayon lumineux? Par quel moyen? Que se passe-t-il? Il est en effet impossible d'isoler un rayon lumineux, en utilisant par exemple un trou de petite taille, car à partir d'une certaine limite, de taille de trou, le faisceau n'est pas rétréci mais au contraire s'étale. La lumière s'étalera d'ailleurs, d'autant plus que le trou sera petit. C'est la diffraction. Celle-ci a été découverte par Grimaldi au XVIIe siècle, en faisant l'expérience bien connue de la diffraction de la lumière par un cheveu. À retenir, l'approximation de l'optique géométrique et le modèle du rayon lumineux ne sont valables que lorsque la longueur d'onde de la lumière est petite devant les dimensions des obstacles et ouvertures qu'elle rencontre. Rayon lumineux et nature ondulatoire de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage à la célérité C. On appelle surface d'onde l'ensemble des points pour lesquels le champ électrique de l'onde lumineuse a la même valeur à un instant T. À retenir, l'énergie lumineuse se propage suivant des trajectoires perpendiculaires en tout point aux surfaces d'onde. Chaque trajectoire est appelée rayon lumineux. Loi de l'optique géométrique. Milieu de propagation. Dans tout ce qui va suivre, on se place dans le cas où le milieu de propagation est homogène et isotrope. Homogène, c'est-à-dire que les propriétés physiques, densité, indice de réfraction, etc., sont les mêmes en tout point du milieu. Exemple de milieu non homogène, l'air, situé juste au-dessus d'une route. cette non-homogénéité donne naissance au mirage. Isotrope. Pour un milieu isotrope, les propriétés physiques sont identiques dans toutes les directions de propagation du rayon lumineux. Exemple de milieu non-isotrope, le cristal de quartz. La vitesse de propagation du rayon lumineux n'est pas la même dans toutes les directions. S'il existe deux directions avec deux vitesses différentes, on parle de matériaux biréfringents. Il existe deux indices de réfraction selon deux directions. Trois lois fondamentales de l'optique géométrique. Propagation rectiligne. Dans un milieu homogène et isotrope, les rayons lumineux sont des droites. On peut remarquer qu'il s'agit du plus court chemin pour aller d'un point à un autre. La géométrie nous permettra donc de construire le trajet de la lumière, d'où le nom d'optique géométrique. Retour inverse de la lumière. Que la lumière se propage de A vers B ou de B vers A, elle emprunte à la même trajectoire. A et B sont sur le même rayon lumineux. Indépendance des rayons lumineux. Il n'y a pas d'interaction entre deux rayons lumineux. Un rayon ne peut pas en dévier un autre. Loi de Snell-Descartes. Loi de la réflexion. Il y a réflexion lorsque la lumière change brutalement de direction, mais tout en restant dans le même milieu de propagation. On distingue deux types de réflexion. La réflexion métallique, où le facteur de réflexion énergétique est proche de 1. C'est de cette réflexion que l'on parle lorsque la lumière arrive sur un miroir plan, constitué d'une couche métallique déposée sur un support et recouvert d'une plaque de verre. La réflexion vitreuse, elle se produit lorsque la lumière est interceptée par un dioptre, surface de séparation entre deux milieux transparents. Le facteur de réflexion est plus faible que dans le cas d'une réflexion métallique, puisque, outre la lumière réfléchie, il y a une partie qui est transmise, réfractée, dans le second milieu. Remarque, le coefficient de réflexion dépend dans les deux cas de l'inclinaison des rayons sur la surface réfléchissante. Dans le cas de la réflexion métallique, il dépend aussi de la longueur d'onde de la lumière. Dans le cas de la réflexion vitreuse, il dépend des indices de réfraction des deux milieux. Les deux lois de la réflexion. Petit 1, le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence, défini par la normale au dioptre et le rayon incident. Petit 2, les angles d'incidence I1 et de réflexion I'1 vérifient I'1 égale moins I1. Attention, les angles sont orientés. On définit un sens positif pour les angles, qui sont donc des grandeurs algébriques. Ce sens est arbitraire, on le choisit, mais on s'y tient. Par contre, les angles sont toujours orientés à partir de la normale. Réfraction. Il y a réfraction quand il y a changement de direction de propagation de la lumière, lorsque celle-ci traverse un dioptre et change donc de milieu transparent. Les lois de la réfraction. Petit 1. Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence. Petit 2. Les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 vérifient N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ainsi, lorsque le rayon passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il s'éloigne de la normale. C'est-à-dire que l'angle I1 est plus petit que l'angle I2. Si la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale. L'angle I1 est plus grand que l'angle I2. Retour sur la dispersion de la lumière. Un rayon lumineux va donc changer de direction en changeant de milieu, du fait de la différence d'indice de réfraction. Comme nous l'avons dit précédemment, l'indice de réfraction varie en fonction de la couleur, de la fréquence de la lumière. On en déduit que l'angle de réfraction ne sera pas le même pour chaque couleur composant une lumière. Les couleurs seront donc dispersées. Cela ne se voit pas très bien avec une seule réfraction. Par contre, avec un dispositif adapté comme un prisme, on peut obtenir le spectre de la lumière blanche.
Dans le cas où le rayon incident passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, N1 supérieur à N2, à partir d'une certaine valeur de I1, l'angle d'incidence, I2, l'angle de réfraction, peut atteindre pi sur 2. À ce moment-là, le rayon réfracté n'existe plus, on parle de réflexion totale. À partir de la deuxième loi de Descartes de la réfraction, on trouve l'angle I1 limite à partir duquel il y a réflexion totale. I1 limite égale arcsinus N2 sur N1. Connaissez-vous des applications de la réflexion totale ? Fibre optique, détecteur de pluie de pare-brise, prisme à réflexion totale ou pentaprisme dans les jumelles ou les appareils photo, les applications ne manquent pas. Dans l'autre cas, quand le rayon incident passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, N1 inférieur à N2, l'angle que fait le rayon réfracté I2 ne peut pas dépasser une certaine valeur correspondant à un angle I1 de pi sur 2. On a alors I2 max égale arcsinus de N1 sur N2. Mirage. On appelle mirage des phénomènes optiques lors desquels la lumière ne semble pas se propager en ligne droite comme à l'accoutumée. Courbure du trajet de la lumière. Dans les milieux inhomogènes, l'indice de réfraction n'est pas le même partout. Si on prend par exemple une couche d'air située au-dessus de la mer, la partie de la couche très proche de l'eau est plus froide que la partie supérieure de la couche. L'indice de réfraction dépend de la masse volumique. Plus la masse volumique est grande, plus l'indice de réfraction est grand. L'air froid étant plus dense que l'air chaud, l'indice de réfraction décroît avec l'altitude, juste au-dessus de la mer. Avec un ensemble de réfractions sur des couches très fines et une réflexion totale au milieu du trajet, le trajet de la lumière paraît courbe. Dans l'exemple choisi ici de la propagation de la lumière au-dessus de la mer, son trajet semble se courber vers la mer.